Place publique.
L'avenir se dessine peut-être un peu plus pour l'hôpital neuchâtelois. La commission de la santé du Grand Conseil a présenté aujourd'hui une solution alternative pour la mise en œuvre de l'initiative sur la constitution de 2 sites autonomes de soins aigus. La présidente du conseil d'administration de la chaîne, Pauline de Vosbolen, nous livrera son avis d'ici quelques instants. Les négociations entre la Suisse et l'Union européenne sur un accord cadre semblent toujours patiner dans le yaourt. Le conseiller fédéral Ignacio Cassis pourrait changer de stratégie et proposer un accord allégé, histoire d'éviter une rupture avec l'Union européenne. Éclairage sur cet épineux dossier avec notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin, après le flash de 18h30. Les opposants à l'arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins pédestres restent en selle avant la votation du 23 septembre. La campagne ne déchaîne pas les passions et les sondages demeurent incertains. Le conseiller national libéral radical neuchâtelois Philippe Bauer nous dira tout le mal qu'il pense du texte soumis au peuple.
Jusqu'à 19h, place publique. François Comte.
Bonsoir. 2 sites de soins aigus, un à Neuchâtel et l'autre à La Chaux-de-Fonds, épaulés par un centre de services transversaux qui travailleront en réseau. C'est l'avant-projet de loi proposé aujourd'hui par la commission de la santé du Grand Conseil neuchâtelois afin d'appliquer l'initiative acceptée en février 2017. L'organe parlementaire n'a donc pas retenu la solution du Conseil d'État qui préconisait la création de 3 sociétés anonymes, 2 pour les soins aigus et 1 pour la réadaptation. La commission de la santé du Grand Conseil propose un seul conseil d'administration, 2 directions de site avec des compétences élargies et un centre de services transversaux. Les 3 directeurs formeraient un collège qui répartirait les missions de manière équitable. Pour en parler, nous recevons en direct par téléphone la présidente du conseil d'administration de l'hôpital neuchâtelois, Pauline de Vosbolet. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors tout d'abord, quelle appréciation globale vous portez sur cette solution de la commission de la santé ?
Alors d'abord, une grande satisfaction. Pour nous, c'est une excellente chose de vouloir garder une seule entité cantonale. La nécessité de maintenir la transversalité au sein de notre canton, comme le font tous les hôpitaux cantonaux de Suisse, est pour nous source de grande satisfaction.
Alors la solution qui était proposée par le Conseil d'État avec 3 SA, on l'a dit tout à l'heure, elle est jugée trop coûteuse par la Commission. C'est également votre avis ?
Oui, tout à fait. C'est non seulement le maintien de 3 conseils d'administration à terme, mais aussi toute la déconstruction du système qui aurait coûté plus de 10 millions de francs selon nos estimations. Donc pour nous, c'est une excellente chose de garder une structure cantonale en main publique. Toutefois, la question du coût reste ouverte. Il n'y a pas, à notre lecture aujourd'hui, qui est une première lecture, il faut bien le dire, il n'y a pas d'économie à prévoir avec le nouveau dispositif. Au contraire, on va rajouter des directions et tout ça dans un contexte où les prestations d'intérêt général diminuent, les tarifs sont sous contrainte et nous devons mener des réformes pour aboutir à un état financier équilibré. Donc c'est un système plus cher. Et nous devrons analyser dans le détail ce que ceci signifie.
Alors la question du fonctionnement, j'y viens précisément. Un conseil d'administration, 3 directeurs qui siégeraient dans un collège, c'est un modèle qui vous paraît viable ou qui au contraire vous paraît trop complexe, trop lourd à gérer. C'est pas finalement un peu une usine à gaz qui se prépare ?
En tout cas, c'est un cas assez inédit dans le domaine hospitalier. Ça pose la question de la transversalité, des masses critiques qu'on a dans le canton de Neuchâtel. Le rapport mentionne l'hôpital du Valais en tant qu'exemple, mais ce qu'il faut citer, c'est que le Valais, qui par ailleurs a une population 2 fois plus grande que celle de Neuchâtel, dispose pour son système de santé d'un hôpital du Bas-Valais et un du Haut-Valais, avec des distinctions linguistiques, des médecins qui travaillent toujours sur le même site. Et la particularité de nos collaborateurs, et notamment des médecins cadres, c'est qu'ils bougent d'un site à un autre. Et au fond, le modèle proposé rend quelque peu complexe, en tout cas dans l'analyse à ce stade, la question de savoir à qui rapporteraient ces personnels soignants et médicaux, logistiques, administratifs, qui bougent d'un site à un autre. Donc c'est un modèle, en tout cas, qui nous interpelle sur la gestion de la transversalité et qui, dans la façon, en tout cas, dont nous le comprenons aujourd'hui à première lecture, avec la création de cette direction transversale, exclut de facto aussi dans les prises de décision de direction les directions financières, de ressources humaines, de logistique, de systèmes d'information qui seraient vraisemblablement englobés dans une seule entité. Donc c'est un modèle qui nous interpelle quelque peu.
On vous interpelle avec des compétences élargies, on l'a dit, pour les directions, même si rien n'est encore fixé, mais on peut le comprendre peut-être, plus de compétences pour les directions au détriment du conseil d'administration. Vous y voyez un signe de défiance à votre égard, l'égard du conseil d'administration ?
C'est difficile à dire, mais a priori non, hein, parce que les directions que l'on propose doivent quand même passer leur dossier par le conseil d'administration. Donc le conseil d'administration a quand même un rôle, je dirais, décisionnel qui reste fort. Maintenant, il y a quelques éléments qui, au niveau de ce conseil d'administration, méritent un peu plus d'analyse. C'est les procédures de vote qui sont prévues et aussi en particulier une notion d'arbitrage du Conseil d'État, alors qu'on est dans le cas d'espèce dans un établissement public autonome avec une personnalité juridique propre. Donc là, il y a des mécanismes de fonctionnement qui sont proposés et qui laissent sous-entendre que ce conseil d'administration pourrait se trouver en situation de blocage, et on doit à tout prix éviter ça pour que les dossiers que les directions présenteraient puissent être analysés de façon sereine par le conseil d'administration.
Est-ce que vous vous sentez prête personnellement, si cette solution était retenue de la Commission de la Santé et du Grand Conseil, est-ce que vous vous sentez prête à l'appliquer, à la mettre en œuvre ?
Disons qu'a priori, je suis prête à continuer mon activité en tant que présidente du conseil d'administration. Évidemment, il y a un certain nombre de points qui, après la présentation de ce projet, de mon point de vue, devraient être nuancés, précisés, modifiés. L'avant-projet prévoit un certain nombre d'instances qui n'ont probablement pas été analysées à la lumière de l'activité très concrète et terre-à-terre d'un hôpital, et notamment ces questions de transversalité, hein, clinique dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut à tout prix pouvoir préserver les aspects de fonctionnement transversaux de l'hôpital, parce que les capacités de formation vont avec, hein, parce qu'on souhaite à tout prix scinder les groupes en deux, parce que les directions seraient autonomes ou auraient une certaine indépendance. Mais en ce qui me concerne, je suis en tout cas partante pour continuer à accompagner le processus.
Toute dernière question, la politique hospitalière, elle fait l'objet de vifs débats, et pas seulement dans le canton de Neuchâtel, aussi dans le Jura et le Jura-Bernois, avec la question de l'avenir de l'hôpital de Moutiers, par exemple. Est-ce que le moment ne serait pas venu de profiter, entre guillemets, de cette situation pour tout remettre à plat et puis définir un modèle commun de meilleure collaboration à l'échelle de l'arc jurassien?
Ah, vous avez tout à fait raison, hein. Il faut chercher des synergies. Maintenant, c'est vrai que si on prend le cas du Jura et du Jura-Bernois, je pense qu'en l'occurrence, ces deux cantons ont un sujet particulier hospitalier à traiter en commun. De façon générale, si je regarde la façon dont l'hôpital Neuchâtelois fonctionne à l'heure actuelle, c'est essentiellement sur le plan roman qu'on se projette au vu de la petite taille de notre canton et de la Suisse par ailleurs. Ça nous pousse à réfléchir au-delà des frontières cantonales et à conclure des accords et des conventions de collaboration, ce qu'on fait très bien à l'heure actuelle, notamment avec des sites universitaires pour des prestations de type universitaire. Donc il faut passer, je pense, par étapes, en préservant les compétences cantonales telles qu'elles existent à l'heure actuelle, mais en gardant à l'esprit la nécessité de travailler sur des thématiques plus complexes en collaboration avec d'autres cantons, voire avec d'autres instances hospitalières.
Pauline de Vos-Bollet, présidente du conseil d'administration de l'hôpital Neuchâtelois, merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Bonne soirée.
Bonne soirée. Au revoir.
Place publique.
Une proposition qui pourrait sortir de l'ornière les discussions entre la Suisse et l'Union européenne sur la signature d'un accord cadre. Le ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, souhaiterait proposer une version allégée du document, selon une information parue dimanche dans la presse. L'accord serait scindé en deux, ce qui permettrait de signer rapidement les questions non contestées et de repousser les points litigieux à plus tard, soit dans un délai de 5 ans. Les négociations sur l'accord cadre avec l'Union européenne agitent la classe politique suisse depuis de nombreux mois. Et nous accueillons en direct notre correspondant à Berne, Serge Jubin, pour évoquer ce sujet capital pour la Suisse. Bonsoir Serge.
Bonsoir.
Alors un mot d'explication tout d'abord, cet accord cadre introuvable pour le moment, en quoi est-il si important pour la Suisse ?
Il faut bien comprendre de quoi on parle et pour cela, permettez-moi de faire un peu d'histoire récente. La Suisse a signé deux paquets d'accords avec l'Union européenne en 1999 et en 2004. C'était les bilatérales 1 et les bilatérales 2. Et il y a désormais quelques 120 accords spécifiques entre Berne et Bruxelles. Mais l'Union européenne réclame de longue date de rediscuter du premier paquet et surtout de cette couleuvre que la Commission européenne avait dû avaler en 1999, les fameuses mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes. Bruxelles aimerait donc insérer les bilatérales 1, revisitées bien sûr, dans ce qu'on appelle maintenant cet accord cadre institutionnel dont on parle tant, avec d'ailleurs d'autres mesures. On dira que les discussions d'abord butaient sur la fameuse votation de février 2014 avec l'initiative contre l'immigration de masse, puis Didier Burkhalter a pu les relancer en 2017, Ignacio Cassis en 2017 et 2018. Et donc cet accord cadre, il faut en être bien conscient, il ne concerne que les 7 accords des bilatérales 1, et notamment la libre circulation des personnes, ou encore l'accès à la recherche européenne. Qu'on soit bien d'accord aussi, cet accord cadre n'amène rien de plus pour la Suisse.
Et aujourd'hui, c'est vraiment cette question de la libre circulation qui coince entre la Suisse et l'Union européenne, ou il y a aussi d'autres problèmes, d'autres écueils?
On a longtemps cru que la pierre d'achoppement entre Berne et Bruxelles, c'était le recours aux juges européens pour régler les conflits. L'UDC a d'ailleurs lancé une initiative contre ces juges étrangers. Elle est soumise au peuple le 25 novembre, mais en fait, elle n'a plus lieu d'être. Car dans l'intervalle, grâce notamment au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, une solution a été trouvée avec un tribunal arbitral composé d'un juge suisse, d'un juge européen et d'un président désigné par les deux partenaires. Voilà un problème de régler. Ce qui coince, on dira trois choses. Il y a les mesures d'accompagnement, on en parle tantôt, la question des aides d'État aux entreprises qui sont sur le marché européen et l'accord sur l'électricité. D'ailleurs, aides d'État et accord sur l'électricité vont de pair. Bruxelles conteste les aides suisses aux entreprises électriques. Sur cette question, encore un moment peut-être, sur cette question, une porte de sortie est possible. Par contre, ce gros problème, ce sont donc les mesures d'accompagnement avec là deux gros points noirs vus de Bruxelles. La fameuse règle des 8 jours, une entreprise européenne qui vient travailler en Suisse doit l'avoir annoncée 8 jours avant pour permettre l'organisation de l'inspection et vérifier qu'il n'y a pas de dumping salarial. Et puis, l'Union européenne souhaite aussi faire sauter la caution que les entreprises doivent verser quand elles viennent en Suisse pour ensuite payer d'éventuelles amendes.
Alors finalement, quelles sont les mesures de rétorsion que pourrait risquer la Suisse en cas d'absence d'entente avec l'Union européenne ?
Alors il faut d'abord bien comprendre qu'on est encore en négociation. Et avant d'envisager les sanctions, il faut terminer le processus, mais tout indique que Berne et Bruxelles camperont sur leur position intransigeante. Avant de parler de sanctions, il faut aussi relever que la Suisse a fait montre de 2 actes de bonne volonté. Elle voulait faire tomber la clause guillotine. C'est une clause qui concerne les bilatérales 1 et qui dit que si un des 7 accords est dénoncé, les autres tombent d'office. Voilà pourquoi souvent on lit libre circulation des personnes et recherche scientifique. L'autre acte de bonne volonté, c'est l'intention de verser spontanément une deuxième fois 1,3 milliard dite cohésion pour permettre à une certaine mise à niveau des anciens pays d'Europe de l'Est récemment entrés dans l'Union. Parlons des rétorsions, elles peuvent être de 3 ordres. Si elles n'appliquent pas les règles européennes de la libre circulation, donc sans mesures spécifiques d'accompagnement, eh bien la Suisse risque de ne plus pouvoir bénéficier de l'entier des accords bilatéraux 1 ou alors d'avoir beaucoup d'entraves administratives, par exemple pour l'engagement de travailleurs étrangers. Cela fait peur à l'économie et aux écoles. Ensuite, il y a la question très spécifique de la non-reconnaissance de l'équivalence pour la bourse suisse. Le Conseil fédéral est tétanisé par cette menace. Ce serait un sale coup pour les entreprises cotées et pour la place de Zurich, mais pas forcément pour l'entier du pays. D'ailleurs, on oppose volontiers les intérêts boursiers à ceux des travailleurs dont on veut préserver les salaires par le biais des mesures d'accompagnement. Et puis, la troisième rétorsion, elle pourrait être dans le climat des relations entre Bruxelles et Berne, qui pourrait être moins cordial qu'aujourd'hui. On dit déjà que le ton monte à Bruxelles, qui est exaspéré par les tergiversations de la Suisse.
Alors justement, on peut éventuellement s'attendre du côté de Bruxelles à une réaction négative, en tout cas peut-être a priori, sur cette proposition d'accord allégé. Mais finalement, pourquoi le calendrier s'accélère ou semble s'accélérer aujourd'hui en Suisse, même si cette proposition d'Ignacio Cassis n'est pas encore formelle ?
Alors, il faut aussi bien comprendre le timing de cette nouvelle négociation sur l'accord cadre institutionnel. C'est une demande récurrente de la Commission européenne depuis 1999. Et puis, c'est revenu dans le cas, aux environs des années 2010-2011. En 2013, le Conseil fédéral a estimé qu'on pouvait parler d'un tel accord. Mais c'est aussi le moment où il a déterminé les fameuses lignes rouges. Pourquoi faut-il donc conclure en 2018 alors qu'on a commencé à discuter en 2013? Eh bien parce qu'en 2019, il y aura des élections tant en Europe qu'en Suisse. La Commission européenne va changer de personne. Jean-Claude Juncker va s'en aller au printemps. Ce ne sera plus le moment en 2019 de chercher un accord avec l'Union européenne. Et donc de fait, Berne et Bruxelles avaient fixé cette échéance de fin 2018. On dira encore qu'il y a bel et bien donc urgence à trouver maintenant une solution, une porte de sortie. Voilà pourquoi arrive cette idée d'accord light sur la table.
Et cette solution light, justement, bah, quels avantages est-ce qu'elle pourrait représenter tant pour la Suisse que pour l'Union européenne ?
Un mot d'abord sur le contenu de ce que pourrait être cet accord light ou ce que d'autres appellent plan B ou d'autres encore pacte de non-agression. Ben, ça permettrait déjà de constater que dans certains domaines, on parlait du tribunal arbitral, des progrès importants ont été faits. Ce serait aussi une sorte de mesure de bonne foi de la Suisse qui veut résoudre le problème. Ce n'est pas le moment, on ne trouve pas maintenant, mais on s'y remettra plus tard. On éviterait finalement un blocage ou un gel complet. Ça permettrait de se revoir un petit peu plus tard. Il faut comprendre que du côté de Bruxelles, on ne voit pas ça d'un bon œil. On a encore entendu il y a une dizaine de jours le ministre français des Affaires étrangères qui était en visite à Berne, Jean-Yves Le Drian, qui disait qu'il ne pouvait pas s'imaginer qu'il n'y aurait pas d'accord cadre signé cette année. La pression est donc très forte de la part de Bruxelles qui veut cet accord cadre complet et donc surtout l'abandon dans leur forme actuelle des mesures d'accompagnement. Voilà pourquoi Bruxelles a un intérêt à s'en sortir. C'est important aussi pour Bruxelles qui négocie le Brexit. Elle ne peut pas, comme ça, sans autre, laisser tomber une exigence avec la Suisse. On dira aussi que la Commission européenne est souvent exaspérée par l'arrogance de la Suisse. Elle souhaite, en l'occurrence, la faire tomber.
Alors, on le voit, ce n'est pas encore gagné, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais si cette solution light comporterait un certain nombre d'avantages, ça repousserait un peu les questions délicates sous le tapis, hein, mais est-ce qu'il y aurait vraiment des désavantages, de gros inconvénients pour la Suisse?
On a parlé tout à l'heure des mesures de rétorsion. La principale, c'est la bourse. Tout le monde ici à Berne, notamment dans les hautes sphères proches de l'économie, craint qu'il n'y ait pas de renouvellement de l'équivalence, même temporaire. La Suisse estime qu'elle y a droit de manière pérenne. Et puis, il faut aussi comprendre que, et ça c'est un élément important, que l'Europe pourrait être beaucoup moins favorable aux souhaits de la Suisse. Et ça, on le comprend très très mal de la part de la Suisse. On estime qu'on peut négocier d'égal à égal. En fait, ce n'est pas du tout le cas. L'Europe tient à montrer qu'elle est beaucoup plus puissante que la Suisse et surtout qu'elle peut entraver le bon développement de la Suisse.
On va encore largement parler hein, de cette question des relations entre la Suisse et l'Union européenne avec vous, notamment Serge Hubin, notre correspondant à Berne pour les radios régionales romandes. Merci d'avoir participé à Place Publique et merci pour votre éclairage dans ce dossier, encore une fois complexe mais particulièrement important pour la Suisse. Bonne soirée, Serge.
Bonne soirée aussi.
La campagne sur l'arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres peine à décoller du bitume. L'objet sera soumis en votation le 23 septembre et ne déchaîne pas les passions. Le texte demande de compléter la Constitution afin de traiter les voies cyclables de la même manière que les chemins et sentiers pédestres sur le plan juridique. Il s'agit d'un contre-projet direct à une initiative qui a été retirée. Le Conseil fédéral et le Parlement soutiennent le texte, de même que tous les principaux partis, sauf l'UDC. Le conseiller national libéral radical neuchâtelois Philippe Bauer a voté contre l'arrêté. Nous l'avons joint ce matin pour évoquer les arguments du camp du non. Philippe Bauer se défend tout d'abord d'être un élu anti-vélo. On l'écoute.
Mais pas du tout. Vous savez, depuis plus de 25 ans, tous les lundis soirs avec 6 copains, je fais du vélo et très régulièrement, le week-end, avec ma femme, nous faisons aussi du vélo. Donc non, je ne suis pas un anti-vélo.
Vous n'êtes pas un anti-vélo et pourtant, vous vous êtes prononcé contre cet arrêté.
Oui, pour deux raisons essentiellement. La première a trait au fédéralisme jusqu'à aujourd'hui, la question de l'encouragement du vélo était une tâche qui ressortissait uniquement au canton et je ne comprends pas pour quelle raison aujourd'hui cette tâche passerait à la Confédération. La deuxième raison, c'est une question financière. Malgré tout, derrière chaque modification constitutionnelle sommeille ensuite des dispositions d'exécution, des crédits et souvent aussi quelques fonctionnaires chargés de mettre tout ça en musique.
Alors, on va venir sur les arguments que vous évoquez, mais précédemment, vous qui êtes un adepte du vélo, bah finalement, est-ce que l'inscription dans la Constitution ne permettrait-il pas de développer les pistes cyclables, de créer un effet psychologique ?
Non, parce que, encore une fois, aujourd'hui, les cantons ont la possibilité de développer les réseaux de pistes cyclables et qu'ils en fassent usage dans l'intérêt des cyclistes. Maintenant, pourquoi donner aujourd'hui cette compétence à la Confédération ? Et je dirais aussi, d'après les promesses qui ont été faites par le Conseil fédéral, le développement du vélo tel qu'il est prévu ne devrait pas conduire à l'équivalent de crédits routiers payés par la Confédération pour le développement des pistes cyclables ou des bottes cyclables.
Est-ce que vous contestez la nécessité de développer le réseau cyclable en Suisse ?
Non, je dirais le réseau cyclable doit être développé, peut être développé. Encore une fois, chaque région, avec ses spécificités propres, sait si elle doit le développer ou bien pas. Et c'est pour ça que je n'imagine pas que ce soit une tâche qui soit aujourd'hui dévolue à la Confédération.
Alors justement, les opposants dont vous faites partie craignent une sorte de diktat de la Confédération par rapport au canton et aux communes. Et pourtant, l'arrêté indique dans le texte que les compétences des cantons et des communes seront respectées. Alors, ce n'est pas une manière d'agiter un chiffon rouge de votre part, cette peur de la Confédération qui va imposer des normes ou des projets ?
Alors, c'est un chiffon rouge, je ne pense pas. Par contre, malgré tout, et à lire le message du Conseil fédéral, on voit bien qu'il y aura des crédits qui seront investis, il y aura de la publicité, il y aura de la documentation qui sera édictée par la Confédération. Et après, on a toujours ce cercle que certains appellent vertueux, qui est peut-être un peu plus vicieux. Au moment où on explique qu'il s'agit de développer le réseau des pistes cyclables, ben bien évidemment, les cantons se sentent obligés, voire sous la pression des milieux vélos, d'investir, eux, passablement d'argent là-derrière.
Mais cette garantie qui est fixée dans l'arrêté, donc de respect des compétences des cantons et des communes, elle n'est pas suffisante pour vous ?
Oui, mais vous savez, la garantie du respect signifie que la Confédération n'imposera ni au canton du Jura, ni au canton de Neuchâtel d'investir des montants importants pour le développement du réseau cyclable. Par contre, il est, à mon avis, évident qu'au moment où une telle disposition figure dans notre Constitution, les milieux vélos feront le forcing auprès des parlements cantonaux pour que ceux-ci développent des crédits pour la construction ou l'amélioration du réseau cyclable.
Mais donc on est bien d'accord, ça restera de la compétence des cantons ou des communes, même s'il pourrait y avoir une pression, comme vous l'indiquez.
Alors, oui, effectivement, en ce qui concerne les constructions, mais la Confédération va quand même, avec la compétence qui lui sera donnée, pourra pousser aussi les cantons à faire quelque chose ou pousser les milieux plus favorables au vélo à exiger plus de la part des cantons.
Alors, vous avez évoqué l'argument financier au début de cet entretien. Les coûts sont évalués à 1,8 million de francs par an pour la Confédération. C'est tout de même pas une somme astronomique.
Non, c'est pas une somme astronomique, mais c'est une somme qui s'ajoute à toutes les autres sommes. Et vous savez, aujourd'hui, la situation financière de la Confédération est bonne, mais la situation financière est bonne parce que durant les 15 ou 20 dernières années, la droite du Parlement a toujours refusé des crédits qui n'étaient pas indispensables. Et je crains qu'on soit une fois de plus dans un crédit qui, comme vous l'avez dit, n'est pas très important, mais un crédit qui, une fois de plus, sera une dépense à laquelle on ne pourra plus échapper.
Alors le vélo, ça ne pollue pas, c'est bon pour la santé, vous en pratiquez vous-même, vous l'avez dit. Est-ce que vous menez pas un combat d'arrière-garde finalement en vous opposant à cet arrêté, un combat d'arrière-garde un peu pro-bagnol contre le vélo?
Non, encore une fois, les motifs qui m'ont fait refuser l'arrêté au Parlement sont le respect du fédéralisme et sont une certaine orthodoxie financière. Alors si ça, c'est faire un combat d'arrière-garde, ben oui, je ferai un combat d'arrière-garde. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, la question n'est absolument pas d'opposer aujourd'hui l'autoroute pour les voitures et les pistes cyclables. La question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on veut donner une nouvelle compétence à la Confédération et une nouvelle compétence de dépenser aussi à la Confédération.
Alors la question finalement du trafic, c'est un des arguments qui est avancé par les partisans, la décongestion du trafic. Développer la pratique du vélo permettrait d'avoir moins de voitures sur les routes. Ben, ça paraît relever du bon sens, non, surtout dans les villes.
Mais oui, encore une fois, je vous dis, rien n'empêche aujourd'hui un canton de développer le réseau des pistes cyclables. Simplement, ce que je ne veux pas comme élu fédéral qui ait des convictions fédéralistes, c'est que la compétence passe du domaine des cantons à celle de la Confédération. Et ce que je ne veux pas non plus comme élu ayant des responsabilités financières, c'est aujourd'hui, alors que malgré tout, on se rend compte que la situation économique peut à nouveau déraper rapidement, engager de nouveaux moyens par la Confédération. Mais... Donc ce n'est pas une question d'opposer le vélo à la voiture, ce n'est pas une question d'être rétrograde par rapport au vélo, c'est une question de cohérence politique.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas un coup de pouce, alors là en l'occurrence de la Confédération, pour développer le réseau cyclable et pour parvenir peut-être à un meilleur réseau, aussi à une meilleure pratique du vélo? On voit certains pays, comme les Pays-Bas par exemple, où la pratique du vélo est largement plus répandue, le déplacement en vélo est largement plus répandu que chez nous en Suisse.
Oui, mais c'est un autre débat que celui sur lequel nous votons. On peut, comme ça a été fait dans les années 60, créer un réseau où on a créé le réseau des autoroutes et des routes nationales. On pourrait envisager que la Confédération, aujourd'hui, crée un réseau des autoroutes vélo et finance la construction du réseau des autoroutes vélo. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le débat est de dire, et vous l'avez rappelé, est-ce qu'on veut donner à la Confédération la compétence de pouvoir édicter un certain nombre de règles, un certain nombre de documents en matière de promotion du vélo et de financer ces mesures-là.
Autre argument qui est brandi par les partisans, celui de la sécurité. Le trafic cycliste est le secteur dans lequel le nombre de personnes blessées ou tuées a augmenté depuis l'an 2000. Finalement, est-ce que la sécurité des cyclistes ne mérite pas d'être améliorée? Est-ce que malgré le coût financier que ça peut représenter, encore une fois, 1,8 million, c'est tout de même pas énorme, mais ça permettrait de sauver des vies?
Non, mais là, on est toujours dans ce faux débat. Ces 1,8 million ne serviront pas à construire de nouvelles pistes cyclables, ne serviront pas à marquer de nouvelles bandes cyclables sur les chaussées, ne serviront pas à bétonner des chemins blancs pour qu'en parallèle aux routes de nos cantons, mais ces 1,8 million serviront à faire simplement la promotion du vélo. Il faut vraiment garder à l'esprit ce sur quoi on vote.
La campagne sur ce sujet est particulièrement atone, on peut le dire. Très très peu de débats. D'ailleurs, tous les partis, pratiquement sauf l'UDC, se sont prononcés en faveur de cet objet. Comment vous expliquez que cette campagne, finalement, soit si discrète ?
Oh, Écoutez, je crois que c'est, comme vous l'avez dit, malgré tout, c'est un sujet qui est peu porteur politiquement, c'est un sujet qui est peu porteur financièrement, et puis je crois aussi que les opposants n'ont pas forcément envie de se faire opposer ce que vous m'avez opposé, c'est-à-dire cette idée de que je suis responsable, si je vote contre, je suis responsable des morts sur la route, des cyclistes qui décéderaient sur la route. Je crois que pour cette raison, les opposants n'ont pas envie de faire une trop grosse campagne. Personne n'a envie d'investir beaucoup de moyens financiers dans cette campagne. Je crois aussi que les partisans sont relativement confiants. Et c'est pour cette raison que cette campagne est particulièrement molle, surtout qu'elle elle a lieu en parallèle à la campagne pour les deux initiatives alimentaires.
Alors, les opposants dont vous faites partie ne se sont pas regroupés dans un comité. Pourquoi ? C'est politiquement incorrect de se prononcer contre cet arrêté ?
Non, encore une fois, les opposants se sont manifestés dans leur vote. Les opposants se manifesteront dans les urnes. Mais je ne crois pas qu'il y ait une question de politiquement incorrect. Simplement, l'objet ne valait vraisemblablement pas la constitution d'un comité et d'investir les montants qui sont souvent liés à ce genre de campagne.
Le dernier sondage qui a été réalisé sur ces votations fédérales du 23 septembre montre finalement que pour l'instant, il n'y a pas de vraie majorité en faveur ni en défaveur de cet objet. On est vraiment à touche-touche. Hein. C'est finalement une bonne nouvelle pour vous, pour les opposants, parce que toute la classe politique quasiment, à quelques exceptions près dont vous faites partie, soutient cet objet. Mais on voit que dans les intentions de vote, pour le moment, ça ne se traduit pas, je dirais, concrètement.
Oui, bon, vous savez, ces sondages sur les sujets qui sont justement très peu discutés, quelle foi faut-il y apporter ? Je pense qu'aujourd'hui, la discussion porte beaucoup plus sur les initiatives alimentaires, où là, il s'agit de convaincre pour l'un et l'autre camp. Et j'ai un peu le sentiment que c'est le genre d'initiative où c'est à la veille de déposer son bulletin de vote dans l'urne que le citoyen se forge une opinion. Même si, comme vous l'avez dit, d'un côté, c'est plutôt sympathique, et puis d'un autre côté, c'est une nouvelle dépense.
Il peut y avoir aussi un effet, entre guillemets, sur la participation. Les trois objets qui sont soumis, on vote, ne sont pas forcément des objets très, très clivants. Est-ce que, finalement, une participation faible pourrait profiter au camp du non sur cet arrêté en question concernant les voies cyclables?
Oui, vous savez, sur cette question, on entend tout. On entend aussi l'argument qui dit les seuls qui vont se mobiliser, c'est les partisans de l'initiative, donc plutôt les milieux verts, donc les mêmes qui devraient soutenir l'initiative. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Réponse à fin septembre.
Mais le 23 septembre, pour être précis, rendez-vous donc pour ces votations fédérales. Interview de Philippe Bauer, conseiller national libéral radical Neuchâtel, réalisé donc ce matin dans les conditions du direct.